Les séminaires du Collège de France.
Donc aujourd'hui, nous, pour cette troisième séance de séminaire sur le calcul sécurisé, nous avons le plaisir d'accueillir Ilaria Cilotti, qui est quelqu'un qui a fait des contributions absolument majeures dans le domaine du chiffrement homomorphe, et donc du chiffrement totalement homomorphe. D'abord dans sa thèse, puis ensuite au sein de l'entreprise Zama à Paris, dont elle a été une directrice technique, et elle est maintenant chez Desilo, qui est une entreprise coréenne qui travaille également dans ce domaine. Et donc elle nous fait son exposé en direct depuis Séoul. Et donc, les travaux d'Ilaria et de ses collègues, en fait, ont montré en particulier que l'approche à base de bootstrap, esquissée par Gentry, était en fait réalisable et dans des temps raisonnables. Et ils ont en particulier donc développé ensuite non seulement des algorithmes efficaces, mais aussi de très jolies implémentations de ces idées, dont la bibliothèque TFHE, qui est encore aujourd'hui une implémentation de référence de ces questions de chiffrement homomorphe. Et donc, Ilaria va nous donner donc son point de vue déjà sur ce domaine et son évolution, et peut-être nous montrer quelques-unes des applications sur lesquelles elle a travaillé ou elle travaille aujourd'hui chez Desilo. Merci beaucoup, Ilaria.
Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien.
Parfaitement, c'est très très clair.
Ok, super, très bien. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir de parler ici. Je suis juste désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne à Paris, mais bon, la technologie nous permet de faire quand même. Je voulais juste demander, l'exposé est en français, c'est bon pour tout le monde ou il y a quelqu'un qui ne parle pas français dans la salle? Pour être sûr.
Non, j'ai l'impression que tout le monde est content avec le français.
Ok, super. Bah, du coup, on va faire en français. Super. Je vais parler des chiffrements homomorphes. Bon, ça suit en fait les cours de Xavier et la suite d'exposés qui ont déjà été donnés. Et dans cet exposé, je vais commencer à vous montrer qu'est-ce que c'est le chiffrement homomorphe, pas parce que vous en avez besoin, mais juste pour me permettre de montrer les notations que je vais utiliser. Après, je vais passer sur les schémas basés sur les problèmes Learning with Errors et je vais un peu rentrer sur les détails des opérations homomorphiques, en particulier sur TFHE et son bootstrapping, en sachant que Damien, déjà la semaine dernière, vous a présenté CKKS. Donc, vous devriez déjà avoir pas mal de notions sur les schémas CKKS et la famille, disons, BGV. Et je vais essayer de terminer avec une application sur les réseaux des neurones et vous montrer comment les deux familles de schémas, donc d'un côté CKKS, KKS est similaire et de l'autre côté TFHE est similaire, sont capables d'évaluer ces applications. Et je vais terminer avec des petites remarques, des conclusions et un peu mon point de vue sur les domaines. Les chiffrements homomorphes, pas besoin de dire grand-chose, c'est une technologie cryptographique qui nous permet de faire des opérations sur des chiffrés. Mais il y a une chose importante dans les chiffrés homomorphiques, c'est que ces chiffrés contiennent du bruit. Et dans tous mes slides, vous verrez très souvent ces petits thermomètres qui apparaissent. Ces petits thermomètres, c'est des thermomètres qui mesurent les bruits. Et une chose importante à savoir, c'est que les bruits, en fait, il faut qu'ils restent toujours plus bas d'un certain niveau. Sinon, il risque de compromettre les messages. Donc, la technique de bootstrapping que vous avez déjà vue en cours et probablement aussi avec Damien la semaine dernière va nous permettre de maintenir ces bruits sous une certaine limite. Les types de messages qu'on chiffre, c'est varié. On peut chiffrer des bits, des entiers ou des nombres approximés. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc, ces cadenas, ça va représenter dans mes slides des chiffrés et les bruits, ça va être mesuré par ces petits thermomètres pour vous donner une indication de qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau de la timeline, comme Xavier a dit, il y a eu les chiffres homomorphes existent déjà depuis très longtemps, au moins au niveau de l'idée. Mais c'est qu'en 2009, avec Gentry, qu'on a eu vraiment une solution réaliste. Disons, elle n'était pas pratique à l'époque en 2009, mais il a montré que les chiffres homomorphes, totalement homomorphes, que je vais appeler dorénavant FHE pour simplicité, existent, étaient faisables. Et en particulier, sa contribution principale, c'est cette technique qui s'appelle bootstrapping. Le bootstrapping, quand on l'implémente, il est assez complexe comme opération, mais l'idée de base, elle est très, très simple. J'aime toujours l'expliquer de la façon suivante. Donc, vous imaginez, on a un chiffré, comme je vous l'ai dit, cette cadenas représente des chiffrés, et disons que ce chiffré, il a déjà passé pas mal d'opérations homomorphiques, et maintenant, son bruit, il est monté très haut, et on a besoin de les rafraîchir. Et donc, l'intuition, elle est la suivante. L'opération la plus simple pour éliminer les bruits, c'est laquelle? C'est les déchiffrements. Pourquoi? Parce que quand on déchiffre, on retrouve les messages et on jette tout le reste à la poubelle, bruit inclus. Et du coup, en fait, on voudrait déchiffrer, mais le problème, c'est que pour déchiffrer un chiffré, on a besoin d'une clé secrète. Et si les calculs, c'est des calculs homomorphiques qui se passent, par exemple, dans un serveur, on n'a pas envie de donner notre clé secrète au serveur. Donc, il faut trouver une façon alternative de déchiffrer. Et donc, Gentry propose de déchiffrer homomorphiquement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on va voir les chiffrés originels, les chiffrés bleus, comme un message, et on va les mettre à l'intérieur d'une nouvelle couche de chiffrement orange, disons, et on va aussi donner la clé secrète bleue chiffrée dans une couche de chiffrement orange. Or, le chiffrement orange, c'est du chiffrement homomorphe, et du coup, on peut évaluer des opérations à l'intérieur de la couche orange. Et ben, l'opération qu'on va évaluer, c'est le déchiffrement homomorphe, qui est vraiment une suite d'opérations qu'on peut représenter. Et les résultats, si on a bien setup les paramètres et on a bien fait nos calculs, devraient être à nouveau chiffrés orange, du même message en entrée X, mais avec un bruit qui a été réduit. Pourquoi? Parce que grâce au déchiffrement, on a jeté à la poubelle tous les matériels inutiles et surtout les bruits du chiffrement bleu. Et du coup, on reste juste avec les messages et un peu de bruit qui a augmenté dans les chiffrements orange, mais qui nous permet quand même de continuer à faire des opérations. Donc, cette technique s'appelle bootstrapping, comme vous en doutez. Et une chose qui est aussi importante à dire, c'est que les techniques de bootstrapping d'aujourd'hui ne nécessitent pas forcément de rajouter cette couche de chiffrement, mais on peut directement agir sur ces chiffrés-là sans besoin de rajouter la couche de chiffrement. Et vous verrez avec TFHE, le bootstrapping que je vais montrer plus tard, cette couche de chiffrement n'est pas rajoutée, mais il faut juste chiffrer la clé secrète. OK, donc le bootstrapping cool, ça nous permet de faire du chiffrement homomorphe parce que ça réduit les bruits quand il est trop gros et nous, on peut continuer à faire des calculs et alterner calcul et bootstrapping. Mais le problème, c'est que c'est une technique extrêmement coûteuse. Ça reste, même de nos jours, ce qu'on appelle les bottlenecks, en fait. Là, je ne sais pas quel est le français, mais j'espère que vous comprenez qu'est-ce que bottleneck c'est. C'est les points qui coincent, quoi. La partie la plus complexe et plus coûteuse au niveau d'opération. Et du coup, en fait, parfois, on se demande est-ce qu'on a vraiment besoin de bootstrapper? Eh ben, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de vos applications. Pourquoi? Parce que si, par exemple, les circuits la fonction que vous voulez évaluer peut être représentée par un circuit qui est des basses profondeurs, petites profondeurs multiplicatives, alors les schémas leveled, nivelés ou à étage, je ne sais pas comment on les appelle en français, je dirais leveled. Ils sont déjà super efficaces. En fait, ils nous permettent de faire d'opérations sans bootstrapping très efficaces. Et du coup, si on peut agrandir les paramètres suffisamment pour évaluer les opérations, pourquoi faire du bootstrapping? C'est pas nécessaire. Le problème, c'est que les circuits est profond au niveau multiplicatif en général, les plus les paramètres vont devenir gros et les plus les calculs vont être lents. Et du coup, ça commence à devenir en pratique. Et c'est à ce point-là qu'une approche bootstrappée est beaucoup meilleure. Donc, l'approche bootstrappée, elle est meilleure quand on a un circuit qui est plus profond ou même quand on n'a aucune connaissance du circuit. Et aucune connaissance du circuit, c'est très réaliste en réalité. Pourquoi? Parce que la personne qui chiffre les messages, c'est généralement les clients, disons nous, Et la partie, l'entité qui va faire les calculs, c'est généralement une entité comme les clouds, qui peut-être possède une fonction et qui va évaluer cette fonction sur nos données et qui n'a pas forcément envie de nous révéler la fonction qu'il va évaluer. C'est-à-dire, nous, on peut connaître la fonctionnalité qui sera évaluée, mais on ne va pas connaître forcément exactement toutes les opérations qui seront calculées. Du coup, dans un cas d'un circuit inconnu au client, qui est la personne qui setup les clés secrètes et les chiffrements homomorphes, dans ces cas-là, une approche bootstrappée est beaucoup meilleure parce que ça nous permet en effet de ne pas avoir des limites au niveau des opérations ni de la profondeur du circuit. Le problème, c'est bien sûr que le bootstrapping est coûteux, donc il faudra tenir en compte ça dans l'évaluation. Et donc, le bootstrapping, super intéressant, génial, c'est l'idée qui déclenche vraiment les FHE. Et à partir du moment où Gentry a présenté son résultat, la recherche, elle a produit énormément de travaux sur les chiffrements homomorphes, en essayant d'avoir des solutions alternatives et surtout en essayant de produire un bootstrapping qui soit suffisamment rapide pour être utilisé en pratique. Et de nos jours, il y a en particulier deux familles de schémas qui sont utilisées et étudiées. Et c'est la famille BGV, qui origine du schéma BGV du 2011, et la famille GSW. Les deux, je les ai mis en gras. C'est des familles et des schémas homomorphes basés sur les problèmes LW. Et elles sont très similaires, mais elles font les opérations de façon différente. BGV travaille beaucoup avec des chiffrés ring LW, GSW, il travaille avec des chiffrés généralement plus gros. Et c'est la raison pour laquelle, initialement, malgré GSW sont une solution très élégante, elle a été considérée moins intéressante que les schémas BGV. Et c'est en réalité en 2014, avec la solution FIU proposée par Dukai Michancho, et GSW a commencé à attirer beaucoup plus d'attention parce qu'ils sont en effet les premiers à avoir proposé un bootstrapping en moins d'une seconde. C'était une limite jamais atteinte, donc c'était assez impressionnant. Et de nos jours, en fait, les schémas utilisés, c'est ça. Et en particulier, vous avez vu avec Damien la semaine dernière, c'est KKS. Et moi, je vais montrer un petit peu plus TFHE, mais je sais que vous avez vu déjà en cours avec Xavier. Voilà. Donc, c'est ça, et on va se focaliser sur les chiffrements basés sur LWE. Donc, pour rappeler rapidement qu'est-ce que c'est LWE, à nouveau, pour mettre un peu mes notations, les problèmes LWE, Learning with Errors, il a été proposé en 2015 par Egev, et c'est un problème difficile sur les réseaux. C'est un problème qui a fixe une clé secrète qui est une liste de N entiers, généralement petits, et fait des combinaisons linéaires entre la clé secrète et des éléments uniformes dans ZQ. Et donc, on génère ces éléments uniformes AI, on les multiplie avec la clé secrète, on les additionne les tous ensemble et on rajoute un petit bruit. Et le résultat qui va être produit, c'est cette quantité U qui ressemble à de l'uniforme. Et donc, quand on donne cette suite d'éléments, les éléments AI et l'élément U, ça s'appelle un simple LWE. Et voilà. Une chose importante pour les notations, ces rectangles, pour moi, vont représenter des entiers modulo Q. En bas, on a les listes significant bits. En haut, on a les mots significant bits. Et donc, les bruits qu'on rajoute, c'est un petit bruit, donc il est plutôt dans les listes significant bits. Donc, ce problème, il y a un problème difficile pour deux raisons. La première, c'est que si on nous donne plusieurs samples LWE, c'est difficile de retrouver la clé secrète. Et l'autre raison, c'est que si on nous donne beaucoup de samples LWE, ça va être difficile de les distinguer de l'uniforme. Et du coup, grâce à des problèmes difficiles, on construit de la crypto et dans ces cas-là, on construit du chiffrement homomorphe. On utilise un chiffrement homomorphe LWI et aussi ring LWI. TFHE va utiliser les deux problèmes en continu. Donc comment on utilise LW pour chiffrer? C'est très simple. On fixe une clé secrète comme définie dans les problèmes et on veut chiffrer un message M, disons. Donc la chose qu'on va faire, c'est qu'on va rescaler ces messages M par une quantité delta. Et du coup, on va les mettre un peu dans les mots significant bits de notre petit rectangle. Et on va les compléter avec des zéros. Ça, c'est ce qu'on appelle un chiffré trivial LW. Et donc, pour chiffrer ce chiffré trivial, on lui rajoute tout simplement un simple LW qui va agir comme une masque et cacher les messages. Et donc, notre chiffré LW va être quoi? Va être la liste des éléments AI uniformes du simple LW. Et il va avoir un élément B qui est égal à la somme des AI SI plus l'erreur, plus le message delta M. Et ça, c'est notre chiffré LW. Et les bruits, les petits thermomètres toujours, et c'est lui qui mesure les E, l'élément, les petits bruits qu'on a rajoutés dans les LW sample. OK. Donc, pourquoi ça marche? Parce que quand on déchiffre, et surtout quand est-ce que ça marche, il faut regarder les déchiffrements. Pour déchiffrer, si on connaît la clé secrète, on peut tout simplement calculer B moins la somme des AISI, et ça va nous donner cet élément, cet élément-là, qui, par construction, contient les messages risqués par une quantité delta, donc il se trouve dans les mots significants bits, et l'erreur dans les lits significants bits. Et du coup, la condition, c'est que si l'erreur n'a pas grandi plus haut que delta sur 2, on est capable de prendre cette quantité, de faire un rounding et de retrouver du coup notre message. Et du coup, les chiffrements marchent. Et du coup, l'erreur, en effet, l'erreur qu'on a rajoutée qui est mesurée par notre thermomètre, il faut qu'il dépasse jamais delta sur 2, sinon il va compromettre les messages. Et du coup, ça, c'est la quantité qu'on doit toujours tenir sous contrôle, disons. Il existe aussi dans le schéma BGV une façon différente d'encoder, et c'est de mettre les messages, les significants bits et l'erreur sur les mots significants bits, c'est aussi possible, mais on ne va pas voir cette variante maintenant. Voilà, c'était juste pour information. Ring Learning with Errors, on fait exactement la même chose, mais plutôt que de travailler avec des entiers modulo Q, on va travailler avec des polynômes modulo xn plus 1, toujours modulo Q. Donc, on va fixer notre clé secrète, que cette fois-ci, c'est un polynôme. Dans mes slides, les polynômes seront notés par ces blocs qui contiennent plusieurs éléments modulo Q qui sont des entiers, en fait, les coefficients du polynôme. Et on va faire les chiffrements de la même façon. Mais cette fois, plutôt qu'avoir juste un entier, on va avoir un polynôme qui contient plusieurs entiers modulo Q et, dans ces cas-là, plusieurs messages dans les coefficients. Et qu'on va bien sûr rescaler comme avant sur delta. On va compléter par des zéros, mais cette fois juste un polynôme additionnel à zéro. Et on va masquer par un simple ring LW. Ou un simple ring LW, c'est un polynôme aléatoire AI, un premier élément plutôt qu'une liste d'éléments AI. Et la partie B, ça va être la somme des A, pardon, pas la somme, les produits entre l'élément A aléatoire qu'on a généré et la clé secrète. Plus une erreur qui est à nouveau un polynôme cette fois, plus les messages qui étaient encodés dans les polynômes avant. Et pourquoi ça marche? Exactement pour la même raison qu'avant. Si on déchiffre, on calcule B moins AS et ça va nous donner à nouveau cette fois-ci un polynôme avec chaque coefficient qui contient un message et les bruits dans les lits significants bits. Donc toujours la même condition. Si on ne dépasse pas delta sur D, on devrait être capable de déchiffrer correctement. OK. Donc, une chose importante à dire, parce que vous avez déjà vu ces KKS, dans TFHE, Ring LW, il est utilisé dans ce qu'on appelle les coefficient packing. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, les messages, c'est les coefficients du polynôme. Dans ces KKS, par contre, vous avez vu probablement les slot packing, les packing par slot, qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est un encodage particulier qui vous permet en réalité de faire des opérations SIMD en parallèle. Et du coup, les schémas des types BGV et ces KKS utilisent beaucoup les slot packing. Par contre, TFHE, il fait pas ça, il utilise les coefficients. OK. Donc, essayons de voir maintenant avec ces deux chiffrés, Ring LW et LW, qu'est-ce qu'on peut construire? Trivialement, et probablement vous l'avez aussi vu en cours, ces deux chiffrés sont additivement homomorphes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on rajoute deux chiffrés LW, chiffrés avec la même clé, ensemble, on va obtenir un nouveau chiffré LW qui chiffre la somme des messages avec un bruit qui a légèrement augmenté à cause du fait qu'on a fait une opération homomorphe. Et même chose avec Ring LW. Et par extension, ça signifie qu'on peut aussi faire des multiplications par des petites constantes. Pourquoi? Parce que multiplier par une constante, ça signifie simplement rajouter le chiffre à lui-même plusieurs fois. Et pourquoi je dis petite constante? Parce que la constante par laquelle on multiplie les chiffres va avoir un impact sur les bruits. Les bruits vont grossir de façon proportionnelle à la constante qu'on utilise. Du coup, les voilà, c'est ça. grâce au fait que c'est additivement homomorphe, on peut aussi faire du chiffrement à clé publique. Donc, historiquement, le chiffrement à clé publique, il est beaucoup plus difficile que le chiffrement à clé secrète. Ça nous a fallu beaucoup d'années pour avoir du chiffrement à clé publique. Mais un chiffrement homomorphe, obtenir de la clé publique via la clé secrète, c'est extrêmement facile. Pourquoi? Parce que ça nous suffit, en fait, de publier comme clé publique une liste déchiffrée de zéro. Et si on a une liste de chiffres des zéros sans connaître la clé secrète, on peut maintenant chiffrer n'importe quel nouveau message. Et on fait comment? Tout simplement, on multiplie chaque élément de la clé publique, donc chaque chiffre des zéros, par une petite constante, généralement un bit RI. On les somme tous ensemble. Et donc, si on somme des chiffres des zéros aléatoires, on va obtenir quoi? Un nouveau chiffre aléatoire des zéros. Et à ça, on rajoute un chiffre trivial bruité du message M, et le résultat va être un chiffré du message M. Mais cette fois, on l'a produit grâce à une clé publique et pas avec, grâce à la clé secrète. Et ça, c'est dû au fait que le chiffrement LW est additivement homomorphe. Et même chose, exactement la même chose, on peut la faire avec RingLW. Donc, comme je vous disais, on peut juste multiplier par des constantes petites, mais on ne peut pas multiplier par des grosses constantes. Et surtout, à ce niveau-là, on ne peut pas faire une multiplication entre deux chiffres. Ça va être compliqué et ça ne va pas donner les bons résultats qu'on veut. Bah, du coup, avec les chiffrements homomorphes, en particulier avec les schémas des types GSW, on utilise deux chiffrés additionnels qu'on appelle les RLEV et les RGSW. GSW vient du schéma GSW que j'ai mentionné. Et donc, les chiffrés RLEV, c'est des collections de chiffrés RingLW, comme on les a vus avant. Donc, on a L chiffré RingLW et ensemble, ils forment un chiffré RLEV. Et les chiffrés RLEV du message M, il est une collection de RingLW, chacun d'entre eux qui chiffre les messages, soit un scaling factor, un delta qui est différent. Et en particulier, ce scaling factor, c'est une base de décomposition qui est utilisée pour la faire facile, pour recomposer un entier, un gros entier qu'on aurait décomposé. Donc, pour être peut-être un peu plus clair, quand on veut faire une multiplication, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose la grosse constante. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la multiplier directement par les chiffres. Et on va la recomposer homomorphiquement en multipliant par un RLEV pour pouvoir la recomposer. Mais le fait que la base de décomposition a été chiffrée à l'intérieur du RLEV nous permet de garder les bruits contrôlés, même si on est en train de multiplier par une grosse constante. Et du coup, voilà, on utilise très souvent les chiffrés de type RLEV, en particulier les clés de key switching, dont vous avez peut-être entendu parler, sont des chiffrés RLEV. Et l'autre chiffré qui est très intéressant, comme je vous disais, c'est le chiffré RingGSW. Et le chiffré RingGSW, c'est une collection des chiffrés RLEV. Cette fois qui chiffre non seulement les messages, mais aussi les messages fois la clé secrète. Voilà. Ces chiffrés RingGSW, grâce au fait qu'ils chiffrent aussi du matériel de la clé secrète, va nous permettre de faire facilement des multiplications. Et en particulier, voilà, les chiffrés RingGSW, malgré qu'ils soient des chiffrés très très gros, ils sont fully homomorphiques. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de faire l'addition, les constant multiplication, mais aussi la multiplication entre chiffrés GSW. Donc, on a ces trois chiffrés. Qu'est-ce qu'on utilise en pratique? Donc, avec les schémas BGV, BFV, CKKS, on utilise principalement que du RingLW et des RLEV. Par contre, en TFHI, on va faire un mélange et on va utiliser en continu les trois chiffrés. Et on va voir aujourd'hui comment on les utilise. Dans BGV et BFV, comme je disais, on peut faire la multiplication que vous avez déjà vue probablement avec Xavier et Damien. Et la multiplication s'est faite sur Dering LWI. Donc, on fait un tensor product et après, on fait une relinarisation à l'aide d'un chiffreur RLEV qui chiffre la clé secrète. Dans TFHE, on fait des multiplications avec RingSW. Et on peut faire aussi d'autres opérations pour entre les différents types de chiffrés. En particulier, on a une opération très simple qu'on appelle la sample extraction, qui est une opération qui nous permet d'extraire un des messages chiffrés dans les polynômes de ring LWI en tant que chiffré LWI. Donc, vous pouvez imaginer de vouloir extraire n'importe quel coefficient du ring LWI. Il y a cette opération très simple et surtout qui ne fait pas augmenter les bruits. C'est pour ça que j'ai mis un égal, qui vous permet d'extraire ces messages, ces coefficients, en tant que chiffré LWI. Et maintenant, si vous voulez revenir du LWI au ring LWI, il y a aussi une technique qui vous permet de le faire, qui s'appelle le packing key switch, qui vous permet d'ailleurs de packer plusieurs messages LWI à l'intérieur d'un seul ring LWI. Quoi d'autre? Si on est un ring LWI dans TFHE, on peut faire des rotations par une puissance connue, ce qui ne fait pas augmenter les bruits. Et on peut faire des blind rotations ou évaluer des automorphismes. Et les blind rotations, c'est des rotations par une quantité non connue. Et ça va être, cette blind rotation que je vais vous montrer, va être les corps, la partie principale du bootstrapping des TFHE. Et cette blind rotation nécessite de l'utilisation du RingSW. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blind rotation, elle est construite avec ces deux opérations, l'external product et par conséquent les CMUX, qui sont des opérations entre les RingSW et les RingLWI. Donc, pour simplicité, je vais noter les RingSW comme en orange foncé, les RingLWI en jaune. L'opération des CMUX, c'est quoi? C'est juste une condition if en pratique. C'est un gate ternaire, disons, qui prend en entrée un bit d'information chiffré dans un ring GSW et deux valeurs V0 et V1 qui peuvent être des polynômes chiffrés dans des rings LWI. Et selon la valeur de B, il va vous sortir V0 ou V1. Donc si B égale à 0, on aura V0. Si B égale à 1, on aura V1. Et comment on construit cette opération homomorphiquement? Grâce à l'external product. Donc, on va d'abord faire une différence entre VI, V1 et V0. Pourquoi? Parce que grâce à la propriété additive des RingLWI, on peut faire des additions ou des différences entre éléments RingLWI. Ça, on va les multiplier par les chiffrés RingSW via l'external product, ce qui va produire comme résultat un RingLWI. Et après ça, on va l'additionner à V0 à nouveau et donc le résultat va être un ring LWI chiffrant VB. Et ça, c'est une condition if, ça va être très puissant à utiliser dans les chiffrements, dans les bootstrappings de TFHE. OK, et on peut faire des key switching, mais ça, on n'a pas besoin aujourd'hui. OK, donc, toutes les opérations que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est des opérations qui font augmenter les bruits ou les tenir constants. La rotation par une constante, ça fait pas monter les bruits. Le sample extract fait pas monter les bruits, mais toutes les autres opérations font monter les bruits. Donc maintenant, il faut voir comment, en TFHE, on va faire descendre ces bruits. Et en TFHE, on les fait en utilisant les bootstrapping de TFHE qui bootstrap des chiffrés LWE. Donc, comment ça marche? L'idée est exactement comme l'idée de Gentry, de base. On veut évaluer un déchiffrement homomorphe. Et donc, on va passer la clé secrète de boost, la clé de bootstrapping, et on va rentrer dans un circuit de déchiffrement. Mais ce circuit de déchiffrement va être très particulier et il va prendre en entrée aussi une lookup table. Et du coup, non seulement vous pouvez diminuer les bruits, mais vous pouvez aussi évaluer une fonction en même temps que vous diminuez les bruits. Donc, comment ça marche? On a envie de déchiffrer homomorphiquement. Et donc, on a notre chiffré LWI avec un bruit qui a grandi. On veut les déchiffrer. C'est quoi les déchiffrements des W? C'est juste les calculs des B moins la somme des AI SI. Ce qui va nous donner les plain text, ce que je vais appeler les plain text, c'est-à-dire delta M plus l'erreur. M tout en haut et l'erreur en bas. Et après, on va évaluer une deuxième opération qui est du rounding pour éliminer les bruits et obtenir en fait notre message. Donc ça, c'est le déchiffrement LWE. Pour faire du bootstrapping, on a envie d'évaluer ces deux opérations. Mais plutôt qu'aller dans l'ordre pour l'expliquer, on va commencer par la deuxième opération. Donc, on va essayer de comprendre quelle est l'intuition des TFHE pour réduire ces bruits et en particulier pour faire ces roundings. Donc, l'idée est simple, assez intuitive, une fois qu'on l'a vu. On va essayer de créer une lookup table, une table de correspondance. Et on va essayer d'assigner à chaque possible plaintext, donc à chaque delta M plus E, la valeur qu'on veut obtenir en sortie, c'est-à-dire M. Donc, on va construire un gros polynôme à l'intérieur duquel on va mettre beaucoup de répétitions. Imaginez que les possibles messages, c'est P. Donc, on va répéter tous les messages 0, 1, 2, M, P, moins 1, pardon. Et donc, si notre plaintext, c'est-à-dire ces petits gars ici, on va évaluer toutes les possibles possibilités de ces valeurs. Donc, la plus simple, c'est quoi? C'est zéro. On a un message zéro et on a l'erreur à zéro. Bah, si on a un message à zéro et erreur à zéro, on va sortir zéro. Donc, la case correspondante dans les polynômes va être du zéro. Si le message à zéro et l'erreur est un peu petit, on va continuer à rester sur du zéro. Et si l'erreur est un peu plus grand, on va continuer à rester du zéro. Pourquoi? Parce que notre message est zéro. Plus en général, si on a un message M, sans erreur, on va tomber sur la case correspondante à M. S'il y a une petite erreur, positive ou négative, on va toujours rester sur la case M et aussi pour une erreur un peu plus grande, jusqu'à la limite de delta sur 2. Donc en fait, la table des correspondances, qu'est-ce qu'elle fait? Pour toute possible valeur de cet élément-là, elle va vous donner en correspondance sur les polynômes les messages qu'on va avoir en sortie, c'est-à-dire les messages sans erreur. Voilà. Et une autre chose qu'on a envie de faire, c'est pouvoir lire cette table des correspondances. Et pour la lire, en fait, on va faire une chose un peu astucieuse dans TFHE, c'est qu'on va rotationner ces polynômes pour amener la case qui nous intéresse, correspondante à delta M plus E, en première position. Pourquoi? Parce que tout ça va être chiffré. Et en fait, la case où se trouve delta M plus E, on ne sait pas. Donc, l'idée, c'est de les ramener dans une position connue. Et par défaut, on a décidé de les ramener en première position, au coefficient 0. Et donc, une fois qu'on aura fait cette rotation, comment on l'a fait? En clear text, ça suffirait de multiplier ces polynômes gigantesques qu'on a construits par x à la puissance delta m moins delta m plus e. Pourquoi? Parce que ça va faire rotationner les polynômes jusqu'à ramener les coefficients qui nous intéressent en première position. Et après, on évaluerait une sample extraction qui nous permettrait d'extraire un des coefficients du polynôme dans un LWI et du coup, bootstrapper et avoir un LWI du message m en sortie comme on voulait. Comment on va, maintenant la question c'est comment on va évaluer cette multiplication par x à la puissance moins delta m plus e. Et ça on va l'évaluer avec ce qu'on a appelé la blind rotation. Et on va se servir énormément du CMUX dont j'ai parlé il y a quelques slides. Donc l'idée est simple. D'abord on observe la chose suivante, qu'est-ce que c'est delta m plus e? C'est bien moins delta M plus E est égal à moins B plus la somme des AI ici. On a juste inversé les signes. Et donc, on va calculer cette puissance de façon récursive. Donc, on commence par... chose importante à dire, dans TFHE, les clés sont binaires, ce qui va être les tricks importants pour pouvoir évaluer les CMUX. Donc, on commence notre itération en calculant V, notre polynôme avec toutes les correspondances, on va les multiplier par x à la puissance moins b. Cette opération est très facile à faire. B est une quantité publique parce que les chiffrés, on les connaît. Et donc, on va faire cette rotation. Cette rotation, d'ailleurs, ne va pas faire augmenter les bruits parce que B est une quantité connue. C'est une rotation, c'est pas une blind rotation. Et maintenant qu'on a obtenu V fois x à la puissance moins b, on va commencer à rajouter à l'exposant les produits AISI. Donc, on commence par A0S0 Et pour les multiplier, on va utiliser les SMUX. L'idée est la suivante. Comme la clé secrète est égale à 0, 1, on a quelques possibilités. Si S est égal à 0, on veut rajouter à moins B plus A0 S0, mais si S0 est égal à 0, c'est 0. Donc, on ne rajoute rien. On reste avec V fois X à la puissance moins B. Si par contre, S0 est égal à 1, S0 fois A0, ça donne A0, et on va juste multiplier par X à la puissance A0. Et donc, si on a fait bien nos calculs, les résultats de ces CMUX va être quoi? Va être V fois X à la puissance moins B, c'est-à-dire notre input ici, plus A0 S0, qui correspond effectivement à la valeur qu'on voulait obtenir. Et maintenant, de façon itérative, on va passer les résultats du premier CMUX en deuxième CMUX, troisième, etc., jusqu'au n-1e CMUX, qui prend en entrée la clé secrète SN-1 et qui fait exactement la même chose. Et qui nous donne en sortie VNV-1 fois X à la puissance AN-1 fois SN-1. Et si on itère, et si on déroule les calculs, on va observer qu'en fait, ça correspond exactement à ce qu'on voulait obtenir, c'est-à-dire V fois X à la puissance moins delta M plus E. Donc, bien sûr, tout ça que c'est que je vous montrer, c'est en clair, mais on ne va pas les faire en clair, ces calculs, parce que la clé secrète doit rester secrète. Donc, on va la fournir comme un chiffré RingGSW qui peut être utilisé à l'intérieur des CMUX, et on va chiffrer tout le reste par des RingLWI. Et du coup, grâce à l'opération des CMUX, on peut effectivement faire tout ça de façon homomorphe et obtenir les résultats espérés, c'est-à-dire V fois X à la puissance moins delta M plus E, un résultat. Et donc, si on regarde à l'intérieur du polynôme, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, la case correspondante à M est venue en première position, comme on voulait avoir. Et maintenant, on utilise l'opération de sample extraction pour extraire cette case comme un LWE. Et du coup, on a bien obtenu un résultat, un chiffré LWE du même message, mais avec un bruit, si on a bien choisi le bruit des clés secrètes, qui est plus bas par rapport au bruit d'entrée. Donc ça, c'est le bootstrapping des TFHE. Or, il y a un truc qu'on peut bien sûr observer. Alors, il y a en réalité trois choses que j'ai cachées un petit peu. La première chose, c'est qu'il y a un scaling factor, parce qu'en sortie, on n'a pas obtenu un chiffré des M, mais bien sûr des delta M, sinon ça serait au least significant bit et ça se ferait bouffer par l'erreur. Donc, bien sûr, dans cette table, il y a un delta que je n'ai pas mis juste pour faciliter la lecture. Deuxième chose importante, c'est que je vous ai dit que la table des correspondances contient toutes les correspondances par rapport à ces plain text. Or, ces plain text, c'est un entier modulo Q, et Q en TFHE, généralement 2 à la puissance 32 ou 2 à la puissance 64. Par contre, les polynômes RingLWI sont des polynômes qui contiennent n coefficients, et les grands n coefficients sont généralement 2 à la puissance 10, 12, 16, pas beaucoup plus. Du coup, en fait, dans 2 à la puissance 16 éléments, vous ne pouvez pas faire entrer 2 à la puissance 32 éléments. Et du coup, il y a une opération que j'ai cachée qui s'appelle module switch, qui va être faite sur ces chiffrés avant de commencer les opérations et qui nous permet de compresser l'information et en fait de pouvoir juste utiliser des messages, disons, ces plain text de taille réduite. Et c'est une opération à nouveau célèbre qui s'appelle module switch qui nous permet en fait de mettre à l'intérieur de la table les éléments qu'il nous faut. Autre chose, c'est que xn plus 1, les polynômes pour lesquels qui est utilisé dans RingLWI est négacyclique, c'est-à-dire que en réalité, on ne peut pas bootstrapper tous les éléments dans les mots significants bits. Il faut garder toujours un petit bit de padding, les petits bits, les premiers bits du message mots significants bits, c'est à zéro. Ou utiliser un plain text space, c'est-à-dire un modulo pour les messages qui sont impairs. Mais voilà, le problème de la négacyclicité est facilement résoluble et je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à ça. OK. Autre chose importante, c'est la suivante, et c'est que qui a construit la table des correspondances à Debussy? C'est nous. Et c'est nous qu'on a décidé de mettre dans la table des correspondances des zéros pour avoir les rounding à zéro, des 1 pour avoir les rounding à 1 si le message est 1, et etc. Et tous les messages, l'identité en fait. Mais personne ne nous empêche de choisir autre chose. Et en particulier, si on voulait remplacer les éléments de la lookup table par des F de valeur en entrée, on pourrait les faire. Et donc, plutôt que fournir une lookup table qui représente la fonction juste les rounding, on peut fournir une lookup table qui évalue une autre fonction, n'importe laquelle on peut penser. Et du coup, à la place d'avoir en sortie un chiffré LWI de M avec les bruits réduits, on peut obtenir gratuitement, sans faire d'autres changements, un chiffré de F de M, avec F une fonction représentée par une lookup table. Et voilà. C'est une fonctionnalité très puissante qui va être très utile, surtout dans des applications comme celle qu'on va voir plus tard dans mes slides. OK. Donc, pour résumer, on peut bootstrapper des LWI ciphertext. Malheureusement, le bootstrapping à l'état, comme je vous l'ai montré, il est efficace que pour des petites précisions. Généralement, on peut arriver jusqu'à 10 bits, mais si on dépasse 10 bits, ça commence à devenir vraiment inefficace. Mais il existe dans la littérature d'autres solutions pour des plus larges précisions, comme par exemple les tree-based bootstrapping ou les WAP-EBS, qui nous permet de chiffrer un message plus large à l'intérieur de plusieurs LW et d'évaluer les bootstrapping de façon un peu plus complexe, mais de pouvoir bootstrapper quand même. Une autre opération importante à connaître dans TFHE, c'est les circuits bootstrapping, qui est une opération qui nous permet de convertir un LW en ring GSW. Et en particulier, cette opération-là, elle est utilisée dans, par exemple, les WAP-EBS pour construire les WAP-EBS. Dans TFHE, il y a beaucoup d'autres choses qui existent. On peut faire d'évaluation des lookup table level sans besoin de faire du bootstrapping. On peut évaluer des automates homomorphes. On peut évaluer des gates homomorphes. On peut faire plein de choses, mais bien sûr, on a un temps limité, donc je ne pourrais pas vous parler de tout ça. Donc, j'ai parlé beaucoup de TFHE, donc maintenant, essayons de nous remettre dans un contexte un peu plus général, avec ces KKS aussi, avec les schémas de la famille BGV. Eux aussi, comme vous l'avez vu probablement la semaine dernière, peuvent faire du bootstrapping. Et en particulier, BGV et BFV ont été bootstrapables, disons, du début. Il avait un bootstrapping qui réduisait les bruits. Par contre, ces KKS, initialement, il avait un bootstrapping un peu particulier, qui ne réduisait pas les bruits, mais qui vous permettait juste de regagner des niveaux multiplicatifs. Mais maintenant, il y a des nouveaux résultats, et j'imagine que Damien vous en a parlé, on peut aussi réduire les bruits dans ces KKS. Donc, faire un vrai bootstrapping dans lequel on réduit les bruits comme on fait dans TFHE. Et donc, si on veut essayer de comparer un petit peu les deux approches, ça, c'est à peu près les choses, disons, les plus importantes de mon point de vue à retenir. Il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà, j'essayais de résumer un peu les différences dans ces tableaux. Donc, CKKS et la famille BGV, elle est une famille qui utilise principalement des chiffres de type ring LWI. Ils utilisent les RLEV pour faire du key switch. Ils font un encodage sur des slots plutôt que sur les coefficients comme TFHE. Et du coup, ils peuvent profiter des fonctionnalités SIMD. Et ils permettent d'avoir des messages de plus large précision par rapport à TFHE. Les opérations, on peut faire des additions, des multiplications. On peut faire du bootstrapping, c'est un peu plus lent que TFHE. Mais maintenant, il a aussi la fonctionnalité de pouvoir évaluer des fonctions. Et il est excellent, cette famille de schémas, pour des applications qui ont beaucoup d'input, parce qu'elle nous permet de faire du SIMD, et des circuits de basse, de petite profondeur, malgré qu'on puisse faire du bootstrapping maintenant. La famille GSW, qui est la famille de TFHE, elle utilise par contre les trois chiffrés en même temps, LW, Ring LW et Ring GSW, les RLEV pour faire du key switching, et nous permet de chiffrer des messages de petite taille avec des messages simples, pardon, un seul message dans des LW avec des petites précisions. On a à nouveau, comme je vous ai dit, des techniques pour faire de la précision pour large, mais généralement, il est efficace sur des petites précisions. On peut faire des additions rapides. Les multiplications sont généralement lentes, sauf l'external product et les simux qui sont très efficaces. Et on peut faire du bootstrapping à nouveau très efficace, comme on vient de voir, qui nous permet de réduire les bruits et d'évaluer une lookup table en même temps qu'on réduit les bruits. Et cette famille, elle est excellente pour des applications qui prennent des inputs simples, pas beaucoup d'inputs, et surtout pour des circuits qui sont très profonds et parfois inconnus. Et du coup, en fait, on voit un peu deux côtés des faces de la médaille. D'un côté, la famille BGV qui nous permet d'avoir des solutions avec une high latency et une high throughput. Le premier un peu négatif, le deuxième positif, et la famille GSW qui est le contraire. On a une low latency et un low throughput. Et du coup, on se demande laquelle on va choisir. Ça va dépendre bien sûr des applications, comme je disais, mais ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser le mieux de deux mondes. Et ça, c'est un peu c'est ce qu'on appelle les scheme switching approach, qui a été proposé initialement par Chimera et qui essaye de construire des liens entre les schémas pour pouvoir utiliser le mieux de deux mondes en même temps. Et aussi, les nouvelles solutions proposées, soit du côté BGV, soit du côté GSW, montrent que les deux schémas essayent de prendre des fonctionnalités l'un de l'autre. Donc, je ne serais pas surprise si au bout d'un moment, en fait, on s'est retrouvé juste avec un seul chemin qui mélange les deux et qui a les mieux de demandes au niveau des fonctionnalités. OK. J'aimerais vous montrer, en fait, comment ces deux chemins, ces deux familles peuvent être utilisées aussi dans des applications. Pour vous montrer aussi comment les fonctionnalités peuvent être intéressantes des deux côtés. Et en particulier, quand on pense aux applications dans le monde du chiffrement homomorphe, on a principalement des applications de machine learning. On commence à voir des applications dans le monde de la blockchain et, en tous les cas, dans tout ce qui est la protection des données privées. Et en particulier, dans le machine learning, qui est l'application dont sur laquelle je voudrais me focaliser aujourd'hui, on fait de l'inférence en utilisant du chiffrement homomorphe. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, pour vous donner un peu un regard sur comment les FHE est utilisé, c'est une inférence des réseaux des neurones. Et en particulier, j'aimerais me focaliser sur un neurone en particulier et vous montrer comment ce neurone très particulier est évalué avec les schémas des types BGV, c'est-à-dire dans notre cas avec CKKX, et de l'autre côté, comment il est évalué avec TFHE. Donc, les neurones que je vais prendre, ça s'appelle un neurone actif. Et c'est un neurone qui prend en entrée plusieurs inputs, X1 jusqu'à Xn, et qui est évalué sur deux steps, disons. La première, c'est une combinaison linéaire entre les inputs, tous les Xi, fois des poids connus, qui généralement sont des quantités petites, plus un bias. Cette combinaison linéaire va produire un output Y, et Y, il va être passé à une fonction qui s'appelle fonction d'activation. Et le résultat de cette fonction d'activation va être Z, qui va être ou un nouveau input pour un des neurones successifs dans le réseau des neurones, ou un output du réseau des neurones lui-même. Et donc, comment on évalue ces neurones actifs avec TFHE et CKKS? Donc, on commence avec TFHE. TFHE utilise principalement des chiffres LW, donc on chiffre un seul message à la fois. Donc, on chiffre chaque XI indépendamment dans un chiffre LW. LW est additivement homomorphe, donc on peut multiplier par des petites constantes qui sont les poids, les rajouter ensemble et on peut calculer facilement les résultats de ça qui va être à nouveau un chiffré LW du résultat Y qu'on voulait, avec un bruit qui a bien sûr augmenté parce que c'est des opérations leveled. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait TFHE pour évaluer la fonction d'activation? Eh ben, il utilise le bootstrapping. Et donc, il encode la fonction d'activation dans une lookup table qui passe au bootstrapping et la fonction d'activation va être évaluée sur Y. Et en même temps, ça va aussi réduire les bruits. Et donc, on va obtenir comme résultat un chiffré LW qui chiffre les résultats espérés avec un bruit qui est réduit et qui est en réalité comparable au bruit d'entrée. Et du coup, vu qu'on a les mêmes bruits en entrée et en sortie, on peut continuer. On peut utiliser ça comme une brique indépendante et construire notre réseau de neurones facilement. Et on n'a plus, théoriquement, des limites de profondeur parce que le bruit, il est contrôlé à tout niveau. Et donc, TFHC construirait les active neurons, une façon de les construire, ça serait celle-là, en utilisant les bootstrapping. CKKS, par contre, il prend une approche totalement différente. Donc, déjà, CKKS utilise des chiffrés RingLW, et les chiffrés RingLW nous permettent de chiffrer plusieurs messages en même temps. Donc, plutôt que chiffrer un seul message, on en chiffre N. Et donc, on utilise, on va essayer d'évaluer en même temps N réseaux de neurones en parallèle sur les N possible set d'input qu'on lui passe. Et donc ça, c'est du RingLW. Il est additivement homomorphe. Donc à nouveau, les premiers steps du réseau des neurones, c'est fait facilement. On fait juste des multiplications par des petites constantes et des additions. Par contre, quelle est l'approche pour la deuxième partie du réseau des neurones, du neurone? C'est d'évaluer la fonction d'activation. Et donc, quelle est l'approche utilisée par CKKS? C'est d'évaluer cette fonction d'activation approximée par une approximation polynomiale. Et ça va nous permettre d'évaluer en parallèle l'approximation polynomiale sur tous les Y chiffrés à l'intérieur du chiffré. Et le résultat va être N output, c'est-à-dire un seul chiffré RingLW qui chiffre à l'intérieur les N résultats du réseau des neurones sur tous les inputs. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet en effet d'évaluer N neurones en parallèle, mais bien sûr, les bruits grandissent, les bruits grossissent. Et du coup, au bout d'un moment, un bootstrapping sera nécessaire. Mais si on fixe les paramètres suffisamment larges, on peut évaluer quelques neurones avant de devoir entrer dans un bootstrapping. Et la chose qui est bien sûr intéressante, c'est que toutes ces opérations sont très, très rapides, plus rapides qu'un bootstrapping. Et on peut évaluer plusieurs inputs en même temps. Du coup, voilà, c'est intéressant de voir que dans une même application, les deux familles, dans ces cas-là, voilà, CKKS et TFHC, vous offrent des solutions très différentes et des fonctionnalités différentes et intéressantes. Donc, c'est à vous de voir si votre application, c'est un seul input et vous voulez aller très profondément, peut-être choisissez TFHE. Mais si vous avez beaucoup de neurones à évaluer en parallèle et si vous voulez être, si votre réseau de neurones est plus court, bah peut-être CKKS, c'est la meilleure option. Voilà. C'est ça. Et, je voulais aussi, vu qu'on a un peu de temps encore, profiter pour vous essayer de vous inciter à jouer avec FHE en vous montrant comment on pourrait évaluer ça en pratique avec une librairie homomorphe existante. Et donc, comme Xavier l'a dit au début, maintenant je travaille dans une entreprise qui s'appelle Decide, qui est une entreprise coréenne qui développe une librairie homomorphe qui s'appelle Decide FHE. Et dans cette librairie, on implémente CKKS. Et donc, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, j'aurais bien voulu faire une démo, mais j'avais un peu peur des problèmes techniques. Du coup, j'ai fait des screenshots de ma démo. Mais ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment évaluer ce que je vous ai décrit avec CKKS avec notre librairie. Et donc, on va prendre un toy example. On va prendre un neurone, comme je vous ai décrit, qui prend en entrée 4 inputs. Chacun des inputs chiffre, c'est un RingLW qui chiffre 8 messages, dans notre cas. Et on va utiliser comme fonction d'activation la fonction ReLU. La fonction ReLU étant égale à un max entre 0 et Y, qui est égal aussi à 1 demi fois Y plus signe d'Y. Donc, toutes ces opérations sont en réalité faciles à évaluer homomorphiquement. C'est-à-dire les signes qui vont nous coûter un peu plus d'efforts, disons. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment nous, on l'évaluerait avec notre librairie. Et donc, c'est très simple, en réalité. Une fois qu'on l'a installé, on va commencer par la partie difficile, la fonction signe. Et la fonction signe, on va l'approximer par un polynôme qui approxime la fonction signe. Dans ces cas-là, c'est un polynôme qui est... en réalité, c'est deux polynômes successifs. Et on va passer à notre fonction signe les coefficients du polynôme. Et grâce à la fonction evaluate polynomial de la librairie, on peut tout simplement passer l'input et les coefficients du polynôme et obtenir comme résultat l'évaluation du polynôme qui approxime les signes sur l'input x. Et à nouveau, vous ne voyez pas du chiffrement pour le moment, vous voyez juste une évaluation polynomiale et vous lui passez les coefficients. La deuxième chose à faire, c'est, vu qu'on a la fonction signe, essayons de construire la fonction relu. Donc, comme je vous ai dit, c'est 1/2 fois l'input, dans ces cas-là, c'est x, plus x fois signe de x. Donc, la fonction signe, on vient de la redéfinir. Donc, on va l'évaluer sur notre input x. Après, les résultats de la sign evaluation, on va les multiplier grâce à la fonction de multiplication par l'input x lui-même. On va additionner x par la fonction d'addition et on va multiplier à la fin par 1/2 pour obtenir la fonction relu. À nouveau, ça sera une approximation de la relu parce que la fonction signe est une fonction approximée. Et le dernier ingrédient pour notre neurone, c'est les produits scalaires. On va initialiser les résultats par les bias, qui est passé en clair. Et après, avec un loop fort, on va rajouter petit à petit la multiplication entre l'input chiffré et les poids, les weights, petit à petit à notre inner product. Et ça, c'est très facile à écrire, c'est juste des multiplications et des additions. À nouveau, vous voyez rien qui est chiffré pour le moment. Et donc maintenant, on va mettre tout ensemble dans la librairie. On va tout simplement initialiser l'engine qui est dans notre cas du GPU, créer toutes les clés secrètes et publiques nécessaires pour l'évaluation. On chiffre nos données, que comme je vous ai dit, c'est quatre listes qui contiennent chacune 8 éléments. On les chiffre avec la fonction encrypt et après, on passe les poids et les bias à l'inner product avec nos données chiffrées. Ça va évaluer en parallèle les huit inner product et les résultats de ça qui est chiffré, on va les passer à la fonction relu. Et les résultats, une fois qu'on les déchiffre, on peut observer qu'il est effectivement correspondant au résultat attendu. Donc, les résultats attendus, c'est celui ici en bas, et ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. C'est correct, bien sûr, jusqu'à une certaine précision qui dépend de la précision de la fonction signe qu'on a évaluée. Dans notre cas, c'était une petite précision, mais voilà, on a obtenu le résultat espéré. Et donc, tout ça, vous pouvez le faire sans forcément avoir besoin de connaître toutes les détails difficiles derrière les fâcheux. Et vous pouvez juste coder cette fonction comme si vous la codez en clair. C'est juste qu'au début, vous allez chiffrer et à la fin, vous allez déchiffrer. Mais le reste des opérations, c'était facile à construire. OK. Je pense que j'ai 5 minutes encore. Donc, je vais conclure tout ça pour passer aux questions. Disons que ça, c'est mon opinion personnelle sur les FHE. Je travaille dans les FHE depuis 2015, ce qui fait 10 ans. Je trouve toujours que les FHE, c'est une technologie qui est excellente. Sinon, je ne serais pas restée 10 ans à faire de la recherche sur ça. J'adore la technique, je trouve que c'est vraiment les holy grail de la cryptographie. Mais il a des limitations. Et si... on veut l'utiliser en pratique. De mon point de vue, ça peut pas être une technologie qui reste toute seule, qui va être utilisée toute seule. La chose qui est par contre rassurante, c'est que la cryptographie nous permet d'avoir beaucoup d'autres techniques, d'autres PET, Privacy Enhancing Technology, qu'on peut utiliser avec les FHE pour avoir des meilleures fonctionnalités et pour surtout compléter les choses qui manquent au FHE. Des exemples pratiques qui existent déjà, c'est par exemple de mélanger les FHE avec du MPC, du multi-party computation, pour produire par exemple du threshold decryption. En particulier, c'est dans notre application, dans des applications comme par exemple les e-voting ou d'autres applications qui nécessitent que les secrets soient partagés entre différentes parties, c'était important de pouvoir partager la clé avec dans plusieurs parties et du coup mélanger les MPC et les FHE nous permet de faire ça. Ou encore, les chiffrements homomorphes ne nous permettent pas de vérifier que les calculs ont été en effet bien faits. Il faut faire confiance au cloud qui évalue la fonction. Et si on a besoin de prouver que ça a été bien fait, ou en particulier que les inputs qu'ils ont utilisés dans les calculs sont effectivement les inputs qu'on a donnés, ben on pourrait mélanger les FHE avec du Zero Knowledge Proof. Et beaucoup plus de combinaisons sont possibles. Et je pense vraiment que ça va être la suite si on veut voir les FHE effectivement utilisés en pratique. Donc, qu'est-ce qui va venir, à nouveau de mon personnel point de vue? Je pense qu'on va avoir encore beaucoup de recherches qui vont apparaître et qui vont améliorer sûrement la technologie, mais aussi on va avoir de l'amélioration qui va être ramenée par les accélérations hardware. On en voit déjà beaucoup. On voit des implémentations dans GPU, dans FPGA et potentiellement dans du ASIC. Donc, il y aura sûrement encore des gros speed-up qui vont être annoncés. Et une chose qui est vraiment importante, c'est, de mon point de vue, c'est des compilers, des compilateurs et des optimiseurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un truc que j'ai mis beaucoup sur les tapis, mais réussir à paramétriser les FHE pour les rendre les plus optimales possibles et surtout pour réussir à garder ces bruits, à pouvoir ne pas bootstrapper très souvent, par exemple, c'est d'optimiser les paramètres et de aussi permettre aux gens qui sont pas experts et qui savent pas comment convertir la fonction en clair sur du homomorphe, de les faire de façon simple, sans besoin de connaître les détails cryptographiques derrière. Et ça, c'est nécessaire parce que je pense que si on veut voir les FHE utilisés en pratique, ce ne sera pas les cryptologues qui vont l'utiliser, qui vont l'implémenter, mais ce sera des développeurs qui n'ont pas forcément des connaissances cryptographiques profondes, et spécialement dans les chiffrements homomorphes. Donc, c'est nécessaire qu'on arrive à produire des outils qui soient user-friendly, facile à utiliser et facile à utiliser en pratique dans des applications pratiques. Et bien sûr, une fois qu'on verra les chiffrements homomorphes déployés dans les mondes réels, dans des applications, il y aura de nouveaux scénarios de sécurité qui vont se présenter et auxquels il faudra faire face. Et je pense que vraiment l'utilisation combinée du chiffrement homomorphe avec d'autres technologies des privacy enhancing technologies va vraiment aider à résoudre ces problèmes. Donc voilà, ça c'était mes two cents sur les chiffrements homomorphes. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.